VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 4 mai 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nathalie Barge.
Pour commencer, les titres.
La France qualifie d'injustifiée la décision du Mali de dénoncer les accords de défense avec Paris.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, veut un retour sûr et dans la dignité des déplacés au Nigeria, dernière étape de sa tournée régionale.
En Somalie, une attaque des islamistes radicaux Chebab contre une base de l'Union africaine a fait plusieurs victimes.
En Afrique du Sud, la fabrication de vaccins anti-Covid par le géant pharmaceutique Aspen est menacée faute de commandes.
Une épidémie de dengue s'est déclarée le mois dernier en Côte d'Ivoire. 11 cas, dont un mort, ont été signalés par les autorités.
En Ukraine, assaut russe contre l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol.
Le droit à l'avortement en péril aux États-Unis. Le président Joe Biden bat le rappel à gauche.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La décision de la junte malienne de dénoncer les accords de défense avec Paris est injustifiée, a protesté hier le ministère français des Affaires étrangères, précisant que la France poursuivrait son retrait militaire en bon ordre comme prévu dans les prochains mois. Le point avec Rosine Mounezero.
Informé le 2 mai de la décision unilatérale des autorités de transition malienne de dénoncer ces accords, la France considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkhane, souligne la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration écrite. La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi soir rompre les accords fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises Barkhane et européennes Takuba, ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a invoqué l'attitude unilatérale de la France lorsqu'elle a suspendu en juin 2021 les opérations conjointes avec les forces maliennes. Le Quai d'Orsay assure par ailleurs qu'elle poursuivra le retrait en bon ordre de sa présence militaire au Mali, conformément aux engagements pris à l'égard de ses partenaires et dans un souci de coordination et de dialogue respectueux avec les forces armées maliennes.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à un retour sûr et dans la dignité des déplacés au Nigeria. Il a fait cette déclaration après avoir visité un camp de déplacés dans l'état de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste qui fait rage depuis une décennie dans le nord-est du pays.
À l'écart des journalistes, M. Guterres a également visité un camp de réhabilitation d'ex-combattants djihadistes et plaidé pour la réintégration de ceux qui, dans un moment de désespoir, a-t-il dit, sont devenus des terroristes et qui souhaitent désormais être des citoyens. Pour favoriser la paix, il termine ce mercredi sa tournée au Sénégal, au Niger et au Nigeria.
En Somalie, des militants islamistes Chebab lourdement armés ont attaqué hier une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine, faisant de nombreuses victimes. Le point avec Eric Manirakiza.
L'attaque, conduite avant l'aube mardi, a visé une base abritant des soldats burundais de la mission africaine de transition en Somalie, près du village de Selbaraf, à 160 km au nord-est de Mogadiscio. Un responsable militaire burundais a indiqué à l'AFP qu'une trentaine de soldats ont été tués, 22 autres blessés et une douzaine d'autres sont portés disparus. Dans un tweet, le gouvernement somalien a fermement condamné cette attaque et réaffirmer leur volonté de lutter contre le terrorisme. Selon la source militaire burundaise, environ 400 combattants djihadistes ont attaqué la base après avoir fait sauter deux voitures. Les soldats burundais se sont alors repliés sur une colline voisine, d'où ils ont continué à se défendre, soutenus par des drones et des hélicoptères. Les islamistes Chebab liés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque dans un communiqué. Ils ont affirmé avoir pris le contrôle de la base et avoir tué 173 soldats de l'Union africaine. Les Chebabs ont aussi diffusé une vidéo montrant des corps semblant être ceux de soldats, selon l'ONG américaine Site Intelligence. Le bilan donné et la vidéo n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.
En Afrique du Sud, la fabrication de vaccins anti-Covid par le géant pharmaceutique Aspen est menacée. Si nous ne recevons aucune commande de vaccins anti-Covid, il n'y aura clairement aucune raison de conserver cette ligne de production, a déclaré hier le directeur général du groupe.
L'Afrique du Sud et l'Inde ont été à la tête d'une bataille pour l'égalité d'accès aux vaccins, une suspension des droits de propriété intellectuelle pour permettre la fabrication locale de doses à moindre coût. Aspen a signé un accord en novembre avec l'Américain Johnson & Johnson pour la fabrication de doses en Afrique pour l'Afrique.
En Côte d'Ivoire, le ministère ivoirien de la Santé a annoncé hier qu'une épidémie de dengue, maladie virale transmise par les moustiques, s'est déclarée depuis le 22 mars dans le pays, touchant principalement Abidjan et faisant un mort sur 11 cas enregistrés. Selon le ministère, il y a 9 cas provenant d'Abidjan et 2 cas venant des villes d'Adiaké à 90 km à l'est de la capitale économique et de Daloa.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Poursuite de la guerre en Ukraine, l'armée de Moscou et les forces pro-russes ont lancé mardi une offensive terrestre et navale sur l'usine d'Azovstal à Mariupol. Et l'ONU a annoncé l'évacuation de 101 civils coincés depuis des semaines dans ce complexe métallurgique. Le point avec Mohamed Oumfa.
À l'est, au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans une frappe russe sur une usine à Avdiivka, ville proche de la ligne de front selon le gouverneur de la région de Donetsk. L'armée russe et les forces pro-russes ont lancé mardi un puissant assaut impliquant chars et débarquements amphibies contre l'immense aciérie Azovstal à Mariupol, selon le commandant adjoint du régiment ukrainien Azov. « Nous allons tout faire pour la repousser », a-t-il ajouté. Il a précisé que de puissants bombardements ont précédé l'assaut, tuant 2 femmes et blessant environ 10 civils. Le porte-parole des armées russes a accusé le régiment Azov d'utiliser le cessez-le-feu déclaré pour évacuer des civils, pour sortir des sous-sols de la Syrie et prendre des positions de tir sur le territoire et dans les bâtiments de l'usine. L'ONU a annoncé l'évacuation réussie de 101 civils coincés depuis des semaines dans le complexe métallurgique. À Zaporijia, destination des bus de Mariupol, les journalistes ont vu au moins 5 bus arriver dans un centre pour les accueillir.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a appelé hier les électeurs à choisir des candidats favorables au droit à l'avortement au lendemain de la fuite d'un projet de décision de la Cour suprême. Les détails avec Jacques Aristide.
La révélation est d'ores et déjà décrite comme un enjeu majeur des élections législatives prévues en novembre prochain. Un scrutin traditionnellement défavorable au parti présidentiel, actuellement le parti démocrate. Pour le locataire de la Maison-Blanche, qui est à la peine dans les sondages, d'autres grands acquis de société pourraient être remis en cause par les États aux mains de l'opposition républicaine. Si l'argumentaire de la décision tel qu'il a été publié et confirmé, toute une série d'autres droits serait en question, a déclaré le président Joe Biden, en évoquant le droit à la contraception ou le mariage des couples homosexuels. Un texte publié par le site Politico fait état d'un revirement éventuel de la Cour suprême au sujet du droit constitutionnel à avorter, garanti sur tout le territoire américain depuis 49 ans. La haute juridiction indique que le document interne ne représente pas une décision finale qui, elle, est attendue d'ici fin juin. Mais les démocrates ont déjà donné de la voix pour défendre le droit à l'avortement, tandis que les républicains ont salué l'avant-projet de la Cour suprême sur fond de la bataille qui les oppose en vue des prochaines élections de mi-mandat.
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine a entamé hier sa réunion de 2 jours, à l'issue de laquelle il annoncera, sauf surprise, une hausse des taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, la première de cette ampleur depuis mai 2000, pour tenter de contrôler une inflation record.
La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
En République démocratique du Congo, 1600 jeunes entrepreneurs vont bénéficier d'une formation dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises que le gouvernement a mis en place pour la promotion des initiatives économiques. La formation est prévue pour 3 mois et les entrepreneurs viennent de Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Le Sénégal expérimente le système éducatif suisse reconnu pour permettre de meilleurs débouchés sur le marché de l'emploi. Un projet pilote a permis de former 120 jeunes dans l'hôtellerie, d'après le site 20 minutes. Ce projet va s'étendre au secteur de l'agrobusiness, du numérique et du bâtiment. D'autres pays, comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire, vont mettre en place des projets similaires. Ici aux États-Unis, les droits de douane mis en place en 2018 sous l'ancien président Donald Trump sur les importations en provenance de Chine pourraient expirer automatiquement le 6 juillet si aucune entreprise américaine ne demande à les maintenir, a annoncé hier l'administration Biden qui a lancé une consultation. Au total, ces tarifs douaniers concernent l'équivalent de 350 milliards de dollars d'importations annuelles en provenance du géant asiatique.
Merci Claire. À présent, les sports avec Nanit Talani.
On commence par du football et cette qualification hier soir de Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions. Le club du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mo Salah l'a emporté 3-2 face aux Espagnols de Villarreal qui jouaient à domicile. Et c'est d'ailleurs les Espagnols qui ont pris le match en compte dès l'entame de la rencontre, menant 2-0 lors de la première mi-temps. Mais en seconde période, Liverpool a changé de visage et a marqué 3 buts, dont un du champion d'Afrique, Sadio Mané. Le 28 mai, au Stade de France à Paris, ce sera donc la 11e finale de Ligue des Champions que va disputer Liverpool. Qui de Manchester City ou de Real Madrid rejoindra Liverpool en finale? Les deux équipes s'affrontent ce soir à Madrid au Santiago Bernabéu après le 4-3 la semaine dernière à l'aller en faveur de Manchester. Avantage donc pour Manchester City qui arrive avec un groupe talentueux et solide. Mais en face, le Real Madrid et sa star Karim Benzema, plus que jamais au sommet de son art, n'ont sûrement pas dit leur dernier mot. Pour le coach du Real, Carlo Ancelotti, le Real devrait être prêt à prendre des risques contre sa rivale si elle veut renverser la défaite de 4-3 au match aller pour espérer se qualifier pour la finale de cette Ligue des Champions. Manchester City, de son côté, compte marquer autant de buts qu'au match aller la semaine dernière. Cyclisme. Le premier coup de pédale du Tour international du Bénin a été donné ce mardi. 14 équipes venues de 13 pays sur la ligne de départ et à l'arrivée de la première étape. C'est le Belge de Decker, Bjorn, qui est sorti vainqueur. Les précisions de notre correspondant sur le Tour, Élisée Oukpatine.
Ils sont 77 coureurs à se lancer sur la 17e édition de ce Tour, désormais classé au rang 2.2 par l'UCI. 6 jours de course, dont la première étape courue entre Bukumbe et Djougou, en passant par Natitengu, longue de 120 km, a vu la victoire de Bjorn Tedeker, qui s'offre en même temps le maillot jaune. Le Belge devance le Camerounais Kamsong Abosolo et le Marocain Adil El Arbaoui. Le coureur de l'équipe Basso Team Flanders se réjouit d'une victoire obtenue dans la difficulté.
C'était très dur parce que le premier kilomètre, il monte beaucoup. Et on a une attaque avec 10 coureurs, je pense. Mais après 50 kilomètres, tout le peloton a regroupé. J'ai attaqué à 3 kilomètres de l'arrivée. Voilà, je gagne. C'était un très bon moment pour moi.
Place à la seconde étape ce mercredi entre Djougou et Parakou, d'une distance de 133 kilomètres favorable aux sprinteurs. Sur les routes du Tour, Élisée Oukpatine, VOA Afrique.
Pour terminer, les paracyclistes marocains Mohamed Amin El Bouazaoui, Mohamed Bouchfar du club de Meknès et Redouane Ajoub du club Fès de cyclisme vont concourir pour la Coupe du monde de paracyclisme et participer aux étapes d'Ostende en Belgique et d'Elzac en Allemagne du 5 au 15 mai, indique la Fédération royale marocaine de cyclisme, citée par Sport News Africa. Les trois coureurs se battront pour décrocher un billet qualificatif pour la Coupe du monde prévue en août au Canada.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, dans un communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale, le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, a donc dénoncé le traité de coopération en matière de défense signé le 16 juillet 2014 par la France et le Mali. Comment cette nouvelle phase de la tension dans les rapports entre les deux pays est-elle perçue par les Maliens? Reportage de notre correspondant Mohamed Danioko.
Rien ne va plus entre Paris et Bamako. Après l'escalade verbale, le renvoi d'ambassadeurs, la décision de retirer la force française Barkhane, c'est l'accord de défense qui vient d'être véhément dénoncé par les autorités de la transition malienne. Pour Ibrahim Cissé, observateur de la scène politique malienne, c'est une suite logique du retrait de Barkhane et donc une officialisation de la rupture.
Mais cette dénonciation a quand même le goût d'une rupture de cet accord-là entre les deux pays. Donc, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'était déjà fait. L'accord était déjà caduc du moment où la France avait déjà annoncé son retrait. Et quand une des parties ne respecte plus l'accord, donc l'accord n'a pas sa raison d'être. Donc, du coup, ce que moi je pense quand même, c'est du fait que le gouvernement ait annoncé ça, on peut le mettre dans le cadre d'officialiser la rupture.
L'analyste Mohamed Mamata Touré pense qu'il ne peut s'agir d'une rupture en l'état. Il s'agit plutôt, selon lui, d'une phase de négociation qui va s'ouvrir et pouvant s'étendre sur une certaine période comme prévu par l'accord.
Et vous savez, il faut qu'on fasse la part des choses. Vous savez, les autorités maliennes ont envoyé une notification. Une notification, ça ne veut pas dire qu'on va mettre fin à cet accord de défense et de coopération tout de suite et maintenant. Donc c'est une procédure qui est sur 6 mois et une procédure qui passe par des étapes aussi. Au cours de ces étapes, il se peut que la partie française et la partie malienne vont s'asseoir maintenant pour discuter s'ils doivent mettre fin à cet accord ou bien s'ils doivent aller à un nouvel accord encore.
Si le gouvernement dit dénoncer avec effet immédiat, pour Yacouba Daou, agent d'une ONG locale, il s'agit de tirer les leçons de cette coopération militaire tout en tenant compte des populations qui sont les premières victimes de la crise sécuritaire.
Il s'agit maintenant de sa côté de voir maintenant quel est l'intérêt à tirer de cette convention-là qui vient quand même de prendre fin. Nous espérons que les conséquences ne vont pas avoir quand même des choses négatives sur la population et que la population n'en souffre pas des deux côtés, que ce soit la France et le Mali.
Les actes unilatéraux posés par la France dans le cadre de ces accords, les violations de l'espace aérien malien par les aéronefs français sont les motivations de cette décision, peut-on lire dans la lettre du ministère des Affaires étrangères adressée à l'ambassade de France au Mali. Cette dénonciation prend également en compte le statut de la force Takuba de l'Union européenne. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a achevé sa visite mardi, visite de 2 jours au Niger, où il est allé se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans ce pays confronté depuis des années à de multiples défis. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
En regardant la performance remarquable de l'armée du Niger, la communauté internationale doit investir à fond dans le renforcement des capacités de l'armée du Niger.
C'est l'une des principales déclarations du secrétaire général des Nations Unies lors de sa visite au Niger. Pour le journaliste spécialiste des questions sécuritaires Moussa Aksa, cet appel de Guterres est très à propos.
L'armée nigérienne a une tradition de lutte contre les groupes armés terroristes. Si vous vous rappelez, depuis les années 2000 jusqu'à 2003, l'armée nigérienne était la première qui a chassé Abdelazak El Para, qui était le patron du GSPC algérien. Donc, c'est une armée qui est bien encadrée et qui a su faire ses preuves sur le théâtre des opérations. Mais cette armée aussi, elle a besoin d'un appui aérien, surtout de forces. Les forces de défense et de sécurité ont plus besoin de l'aviation. Ils ont besoin du matériel lourd, c'est-à-dire que des blindés, mais aussi des ressources pour financer le renseignement. Parce que le renseignement humain dans cette zone sahélienne est très important. Donc c'est pour cela que cette déclaration du secrétaire général de l'ONU est à point nommé. En dehors de tout ceci, il faudrait que les institutions internationales fassent pression sur le gouvernement nigérien pour qu'il puisse placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Jibril Seydou, analyste, estime pour sa part qu'au-delà des financements, les armées du Sahel en général ont besoin davantage de réorientation stratégique et de bonne gouvernance.
Au-delà des investissements dans les armées, il faut également consolider une coopération entre les différentes armées, notamment en ce qui concerne des actions conjointes, mais également pour ce qui est de la sécurisation des frontières. Mais il ne faut pas également perdre de vue que le défi en termes de sécurité au Sahel, c'est aussi d'intensifier les investissements pour assurer une meilleure protection des civils.
Après une visite ce matin sur un site de déplacés à 100 km de Niamey, Antonio Guterres s'est envolé pour le Nigeria, dernière étape de sa tournée africaine. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la tournée du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest cette semaine. Il s'agit d'un périple effectué précisément au Sénégal, au Niger et au Nigeria. Antonio Guterres réclame le départ des jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. L'occasion également pour lui d'aborder le danger terroriste au Sahel, tout comme celui du climat, sans oublier l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'Afrique. Que pensez-vous de ce voyage africain d'Antonio Guterres? Que peut davantage faire l'ONU pour aider le continent? Faites vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Eh bien, le Commonwealth exhorte les pays africains membres de l'organisation à travailler ensemble pour réussir le combat contre la corruption. Annonce de la secrétaire générale Patricia Scotland ce mardi à Kigali au Rwanda à l'ouverture d'une conférence des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains membres du Commonwealth. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Manishimwe.
Pendant 4 jours, les responsables des agences de lutte contre la corruption dans les pays africains membres du Commonwealth qui sont réunis à Kigali doivent tabler sur les stratégies de lutte contre ce fléau en Afrique. Le premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, rappelle que le combat contre la corruption est indispensable vu les conséquences négatives qu'elle exerce sur le développement des sociétés.
Several reports have indicated that global corruption is now costing around one.
Plusieurs rapports ont montré que globalement la corruption coûte environ un trilliard de dollars américains chaque année. Cela a un impact sur la vie de nos peuples. Ce coût est très élevé et continue d'affaiblir la résilience de nos communautés. La corruption détruit l'économie et handicape les investissements. Les investisseurs qui méritent et exigent un environnement sain des affaires éviteront de s'implanter dans des pays au taux de corruption élevé.
Avoid investing in countries where there is a high level of corruption.
un danger pour le développement. C'est également le point de vue de la secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland, qui précise que chaque année, le continent perd plus de 50 milliards de dollars américains suite à la corruption et à la mauvaise gestion.
Pour réussir le combat contre la corruption, il nous faut une approche globale du Commonwealth. Et ce sera possible en travaillant ensemble, en apprenant les uns des autres et en se fixant des projections élevées. Cette ambition est essentielle et figurera sur l'agenda du sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu ici à Kigali le mois prochain. Alors, il convient et il est grand temps de nous retrouver dans cette conférence et combattre la corruption pour asseoir la bonne gouvernance et le développement durable en Afrique.
François Anouka, vice-président de la Commission nationale anticorruption Conakry Cameroun, est confiant que l'Afrique pourra surmonter ce défi, même si le continent souffre toujours des méfaits de la corruption.
Il s'agit d'un échange d'expériences pour que chaque pays dans la mesure du possible, expose ses activités innovatrices qui rentrent dans la lutte contre la corruption. Si je prends par exemple le cas du Cameroun, notre dernière action que nous pensons innovante, c'est de rappeler aux gens que le téléphone est là. Nous avons la possibilité aujourd'hui, avec notre téléphone, de lutter contre la corruption.
Cette conférence de Kigali qui rassemble 18 pays africains, membres du Commonwealth, se tient à un mois de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, est prévue à Kigali en juin prochain. Jean Damasen Manichimwe, Kigali pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Célébration ce 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, un constat a été fait en République démocratique du Congo. Peu de femmes ont l'opportunité d'exercer ce métier alors qu'elles en ont les compétences. Pour montrer le savoir-faire des femmes dans le domaine des médias, l'Union congolaise des femmes des médias a mis en place à Goma depuis 3 ans un journal 100% féminin afin d'encourager les femmes à pratiquer le journalisme. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, est allé à leur rencontre et nous propose ce reportage.
Ce sont les portes du bureau de l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM. Ce bureau abrite également une salle de rédaction où ces jeunes femmes qui terminent à la faculté des sciences de l'information et de la communication viennent pratiquer le métier des journalistes en rédigeant des articles d'actualité et en enregistrant des émissions sur la vie quotidienne à Goma. La composition de cette équipe de rédaction est inédite, uniquement des femmes, y compris les responsables, ce qui n'affecte pas la bonne ambiance ou le sérieux du travail de ces femmes. Ces lundi, elles ont tenu leur toute première conférence de rédaction du mois de mai, avec un focus sur les différents sujets à traiter cette semaine, notamment la liberté de la presse en RDC, et en particulier au Nord Kivu, province dirigée par le militaire depuis un an. Pour elles, les femmes doivent prendre les devants et ne pas se sous-estimer.
J'appellerai toutes les femmes, toutes les filles qui font le journalisme, la communication, de venir et que nous soyons nombreuses, qu'elles enlèvent la peur de travailler dans le journalisme, donc de travailler en tant que journaliste de femmes.
Travailler sans aucun homme ne dérange pas ces femmes qui se sentent largement capables de faire le même travail que les hommes, comme le martèle la rédactrice en chef.
Nous ne dépendons pas des hommes pour travailler. Donc nous pouvons travailler main dans la main pour concevoir une seule chose, voilà. Mais nous ne dépendons pas d'eux. Même s'ils ne sont pas là, nous pouvons travailler. Donc l'absence des hommes ne peut pas se présenter comme un handicap, en fait.
La directrice de l'Union congolaise des femmes des médias révèle que l'idée derrière cette initiative est de donner aux femmes le moyen d'occuper les postes de décision dans les salles de rédaction dans un avenir proche.
Ma lutte est de donner le goût à ces jeunes journalistes. Parce que actuellement, avec nos communautés, avec les us et coutumes, avec tous les stéréotypes autour de la femme journaliste, nous voulions que tout cette stéréotypes cessent. Donc que les femmes se sentent à l'aise d'être journalistes.
L'Union congolaise des femmes des médias s'attaque à la réticence des femmes à exercer le métier des journalistes et se bat pour atteindre l'horizon 2030 avec l'égalité des femmes dans les différentes rédactions. Zanemneti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Merci à Zanem Neti Zaidi. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Nathalie Barge. À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. Et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.